Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors Micheline Prel, qui était la doyenne des comédiennes françaises, nous a quittés la semaine dernière et c'est pour lui rendre hommage que nous consacrons une grande partie de notre émission cinéma avec vous, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Midioni. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Christophe.
Bernard, sans doute pourriez-vous nous donner un portrait de cette immense comédienne.
Son dernier film date de 2014, c'est un film de sa fille, Tony Marshall, avec Patrick Bruel et Sophie Marceau en 2014. Marie-Noëlle,
un peu plus tard, elle a tourné avec Frédéric Socher, j'en dirai un mot.
Alors, parce que 2016. Officiellement, mais vous avez certainement raison Marie-Noëlle, cela dit, si on se penche sur sa carrière, il y a vraiment trois lignes de force qui ressortent. C'est d'abord l'actrice des adaptations littéraires. Elle commence quasiment avec les adaptations littéraires. Félicie Nanteuil, d'après un roman d'Anatole France qui s'appelle Histoire comique. Ça, c'est dès 44. Boule de Suif, qui est en fait une adaptation de Boule de Suif et de Mademoiselle Fifi de Guy de Maupassant, synthétisée dans le film de Christian Jacques. Le Diable au corps, d'après Radiguet, réalisé par le funeste Othon Laramé. Le film est très réussi avec Gérard Philippe. Les Des Jours de Pompéi, quand même. Elle a été la Dame aux Camélias pour Raymond Bernard en 53. Elle a été dans le Christine avec Alain Delon et Romy Schneider d'après Schnitzler. Elle fut même Madame de Rênal en 61 pour le petit écran. Et c'était Marie Laforêt qui jouait Mathilde Lamolle. On la voit dans La Religieuse qui fit scandale, d'après le film de Jacques Rivette. D'ailleurs, c'était fort réussi, le rôle de Madame de Mauny en 66. Et puis, elle retrouve Raymond Radiguet pour le bal du Comte d'Orgel en 70. C'est l'année de Peau d'âne, d'après Perrault, film somptueux et délicieux de Jacques Demy. Et puis un petit peu plus tard, on la verra dans Le sang des autres, on la verra dans Les fausses confidences, on est en 84, puis Les Misérables, la version de Claude Lelouch en 95, puis La mère de Villefort dans Le comte de Monte Cristo pour José Dayan et Le petit écran à la fin des années 90. L'autre grand axe, c'est l'actrice de comédie. On pourrait croire l'actrice classique, froide, pas du tout. Elle est délicieuse dans Le Baron de l'Écluse avec Jean Gabin, où elle dit qu'elle se vendrait pour un haricot de mouton, parce que son personnage est affamé à un moment donné. On la voit chez De Broca, dans La Monde 5 jours, dans un film formidable qui s'appelle Le Roi de Cœur, qui n'avait aucun succès, dans un village de fous pendant la guerre en 66. On la voit chez Édouard Molinaro, dans La Chasse à l'Homme, Les Pétroleuses, moins réussies en 71. Le film 2 avec Jean-Claude Brialy, L'Oiseau rare, Jacques Demy encore pour L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune en 73. Et elle tourne même avec Jérôme Savary, grand homme de théâtre, pour Le Boucher, La Star et l'Orpheline, où elle croise Christopher Lee dans le rôle de Satanus. Ça ne s'invente pas dans le film de Jérôme Savary. On va même la voir sur le petit écran dans Merci Bernard, où officie beaucoup sa fille Tony Marshall en 82. Elle est aussi dans le film de Jean-Yann Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, où elle croise le groupe célèbre les Village People qui chantent leur tube YMCA dans cette comédie. Et puis deux comédies délicieuses de Gérard Jugnot, surtout la première, Casque Bleu, où elle forme un couple très poétique avec Claude Pieplu et un petit chien. Et puis on la verra dans Chouchou. Et c'est l'actrice du mythe aussi, ou à deux pas du mythe, La Nuit Fantastique de Marcel Herbier, ces femmes évanescentes, toutes de blanc.
Les Paradis Perdus d'Abel Gance.
Absolument. Falbala également.
Ah, Falbala.
Et c'est la seule actrice du cinéma français à avoir joué Madame de Pompadour pour Si Versailles m'était compté, Hortense de Beauharnais pour Napoléon et Joséphine de Beauharnais pour Vénus impériale. Donc ça, c'est quand même
exceptionnel. On fait juste une petite parenthèse, puisque vous nous parliez de Paradis Perdu, c'est quand même Abel Gance.
C'est ça qui l'a lancé.
Et c'est l'un de ses premiers rôles, on l'écoute.
Vous ne pouvez pas savoir comme mon pauvre cœur est loin. Ce soir, hier, n'interdit pas demain. Le jour recommence, le printemps s'avance, tout chante, c'est encore tout.
Alors, vous n'avez pas parlé de sa carrière américaine.
La carrière américaine, oui, mais c'est pas toujours ce qu'on retient. Mais c'est vrai, ça fait aussi un peu partie du mythe.
Mais oui.
Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus modeste, la carrière américaine.
Oui, mais lorsqu'elle revient en France, elle a cette aura mythique. On dit, elle rentre d'Hollywood.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, comme Alain Delon, comme quelques acteurs, actrices français, mais on la retient pas tellement pour sa carrière aux États-Unis, quand même. Enfin,
surtout pendant l'occupation, finalement, elle n'avait pas.
Elle est très présente pendant l'occupation.
Voilà, ben oui, mais elle n'a pas en même temps, elle n'a pas fait de compromis, ce qui fait qu'elle a pu avoir une carrière qui n'a pas été morcelée aussi. Mais c'est Paradis perdu, oui, qui la lance, la belle ganse. Hein. En 40, La nuit fantastique de Marcel Dervier aussi. Bon, y a un film que j'aime beaucoup, alors c'est très personnel, c'est Falbala de Becker. Hein, c'est un des rares films sur la mode, il date de 44. C'est un très beau film avec Raymond Rouleau et Jean Chevrier. Et alors c'est très curieux parce que les films que l'on en sait, elle est au fond assez souvent, comme dans Le Diable au corps, une femme infidèle. Dans Falbala, elle est fiancée à Jean Chevrier et elle va tomber amoureuse, mais très rapidement, de Raymond Rouleau qui va l'abandonner et qui va après, sur le tard, s'apercevoir que c'est son grand amour et qu'il finira par devenir fou d'amour et au point de se suicider. Donc ça, et puis bien sûr, dans Le Diable au corps, elle trompe son mari qui est au front avec un jeune homme, c'est Gérard Philippe. Donc il y a aussi ce côté-là. Il y a une petite chose qu'on peut signaler, c'est la télévision. C'était sa dernière gloire vraiment importante, c'était Les Saintes Chéries, entre 65 et 70, tiré de Nicole de Buron, qui a eu un très gros succès à la télé. Et elle a abandonné le rôle, alors que Daniel Gélin, qui faisait son mari, aurait voulu continuer, mais il m'avait dit, je ne comprends pas pourquoi elle a arrêté, mais elle a arrêté en 70, elle n'a pas voulu continuer le feuilleton, qui lui avait apporté une gloire un petit peu tardive, mais qui l'avait fait vraiment...
Et alors, vous, Dominique Borne, vous allez chez elle pour l'interviewer.
Oui, mais ça c'est un souvenir beaucoup plus prosaïque. Je l'ai interviewé une fois, quand j'étais au Figaro, et elle habitait pas très loin du Figaro. J'ai trouvé une femme charmante, mais c'est surtout le cadre de sa vie qui m'a étonné, parce que elle vivait dans un loft. On entrait par la cuisine, on montait un escalier, et là on arrivait dans une immense pièce qui faisait salon, chambre à coucher, cuisine, salle à manger. Et j'ai vu cette femme qui avait 80 ans à l'époque, à peu près, d'une jeunesse incroyable, très aimable, très, très agréable, et qui m'a... Je ne sais plus pourquoi je l'ai interviewée, mais c'était son cadre de vie qui m'avait frappé, parce que voir cette femme de cet âge-là vivre dans un décor aussi moderne et aussi jeune, ça m'a étonné. Et il y a deux autres choses que je voudrais signaler, qui est pour la petite histoire. Elle, comme Michel Morgan, ont épousé Bill Marshall.
Oui.
Elle, comme Michel Morgan, ont eu un enfant avec Bill Marshall, Mike Marshall, et sa fille, la fille
Tony Marshall.
Tony Marshall. Et les deux sont morts avant leur mère. Ce qui est assez triste.
Oui,
Mike Marshall est mort avant Michel Morgan.
On va l'écouter en 1961. Elle a 38 ans et elle parle de sa carrière, notamment, et de son départ pour les États-Unis, de ce qu'elle attend et de son métier.
Est-ce qu'on est bien chez soi ?
Je trouve, Micheline Prel, qu'on ne vous voit pas assez chez vous. Je veux dire à Paris, enfin sur nos écrans. Il me semble que depuis l'époque où est sorti Le Diable au corps, c'était je crois en 1947, jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, puisqu'on peut vous voir dans deux ou trois grands films, au moins à Paris, il s'est tout de même écoulé un laps de temps fort long. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tourné pendant tout ce temps-là ?
Mais d'abord parce que je suis partie en Amérique. Je suis partie en Amérique tout de suite après Le Diable au corps, parce que j'avais connu mon mari, enfin mon futur mari, et je devais me marier en Amérique. Et comme on me proposait déjà depuis un certain temps un contrat à Hollywood, que je n'aurais certainement pas signé d'ailleurs si je n'avais pas rencontré mon mari, je l'ai signé et je suis partie. C'était une erreur, mais enfin, il ne faut jamais rien regretter, je ne le regrette pas. Et j'avais un choix à faire, je l'ai fait. J'ai choisi ma vie privée, c'est tout.
Donc on peut en déduire que la vie privée peut parfois gérer la vie professionnelle d'une comédienne.
Non, pas tout à fait, je ne crois pas. Seulement, il ne faut pas en être tout à fait... dépendante. Je crois que maintenant, je suis beaucoup moins dépendante de ma vie privée. Mettons que je suis plus raisonnable.
Évidemment, puisque vous tournez presque sans arrêt dans de très grands films, est-ce que vous pensez avoir évolué ?
Oh, bien sûr, je l'espère. En tout cas, il faut toujours évoluer. D'abord, j'ai évolué parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mes erreurs m'ont appris beaucoup de choses. On apprend toujours beaucoup de choses par ses erreurs. Et puis, je suis plus âgée. D'ailleurs, maintenant, mes personnages ont changé. Depuis l'âge de 35 ans, j'ai 38 ans maintenant, et depuis l'âge de 35 ans, je joue les femmes de 40 ans.
Quel rôle aimeriez-vous jouer ? Où se situe votre emploi exactement ?
Oh, je ne sais pas. J'aime faire des choses très différentes. C'est comme j'aime rencontrer des gens très différents dans la vie. J'aime faire des choses très très différentes, mais des rôles tendres, même de la comédie. J'ai envie de faire un rôle comique, mais même s'il est très comique, je voudrais qu'il soit tendre, toujours.
À la tendresse de Micheline Prelle. Oui. Alors, Marie-Noëlle Tronchant.
Oui, Micheline Prelle, c'est un modèle de féminité des années 50-60, d'élégance, d'intelligence, d'indépendance aussi, beaucoup de naturel et de pétillant, mais pas du tout dans les hauteurs, dominatrice, de star, non, avec un...
Une grande simplicité, ce que vous aviez remarqué, Nico.
Oui, moi j'avais trouvé ça. On m'en avait pas toujours dit du bien avant, parce que c'était quelqu'un en interview qui pouvait être un petit peu plus dur. Moi je l'avais trouvé charmant.
L'enjouement est la note vraiment particulière de cette élégance bien élevée qui la caractérisait. L'art de ne pas s'apesantir. Moi je l'ai rencontrée après. Dominique, elle avait déjà 88 ans. Elle tournait ses derniers films avec Frédéric Socher, qui était un cinéaste franco-belge extrêmement original et intéressant, et elle a tourné deux rôles pour lui, dont une fausse vedette d'un faux film hollywoodien dans H.H. Hitler à Hollywood, qui était un film très plaisant, très amusant. Voilà, elle annonçait dans l'interview qu'elle voulait des rôles de comédie. Elle les a eus grâce à Frédéric Socher, et elle est merveilleuse. Et elle m'avait dit, dans l'interview que j'ai faite d'elle à l'époque, « Tant qu'on a la curiosité, on est vivant. Le temps passe, les gens qu'on aime disparaissent, mais si on est curieux, on a la possibilité de provoquer des rencontres et des complicités. » Et dans cette phrase, il y a deux mots qui lui étaient très chers. Curiosité. Curiosité, parce que elle allait constamment, on la voyait en gabardine et en souliers de marcheuse, elle arpentait Paris, et quand elle voyait un titre de film qui l'intéressait à une salle de cinéma, elle entrait, elle découvrait le film, elle raffolait de ça, aller à l'aventure au milieu des bouquins, des films, des gens, elle était merveilleusement curieuse. Et puis l'autre mot, c'est complicité. C'est peut-être le mot qui définit le mieux les rapports qu'elle aimait entretenir avec les autres. C'est l'entente à demi-mot, légère, teintée d'humour, qui préserve en même temps l'indépendance et l'écart de la solitude, car elle aimait aussi la solitude. C'est cette passerelle très légère et où il n'y a aucune place pour la domination et la possessivité qu'elle avait connue avec Bill Marshall et dont elle a beaucoup souffert. Et quand on est à Hollywood, elle le disait, ça a été pour moi un échec sentimental et professionnel. Et elle disait aussi, je n'ai rien à dire d'intéressant de l'amour. C'est ma faute et c'est comme ça. Je n'en ai rien tiré. Je voulais faire de l'amour la plus grande affaire de ma vie et il a été une mauvaise affaire. Donc elle lui préférait définitivement l'amitié, y compris l'amitié amoureuse, et cette complicité légère, profonde, égale, qu'elle savait merveilleusement faire vivre.
Vous aviez certainement une phrase pour terminer, pour en finir.
Moi, je dirais que c'est elle scelle l'union entre l'élégance dans le classicisme et l'extravagance dans l'éclectisme. Et ce qui fait qu'on a vraiment une prêle de culture, en l'occurrence.
Voilà, je l'attendais. Alors, écoutons-la encore, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1994, nous sommes chez Bernard Pivot, dans l'émission Apostrophe, et elle répond au questionnaire de Marcel Proust.
Alors, le questionnaire, Micheline Prelle, votre mot préféré ?
Les mots coque. Coquelicot, coquecigrue, coquinerie, coquillette.
Le mot que vous détestez ?
Guillotine.
Votre drogue favorite ?
Les petits vins frais de la Loire.
Bien. Le son, le bruit que vous aimez ?
Au petit matin, tous les bruits au réveil, tous les bruits, ça dépend des lieux, comme ça.
Le son, le bruit que vous détestez
Le son, le bruit que je déteste... Ah, la sono. La sono à plein tube, je déteste.
Votre juron, gros mot, blasphème favori.
Merde.
Oui, très bien, très français. Homme ou femme, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque.
Coluche.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire.
Juge.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné.
Un peuplier.
Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, Micheline Prel, l'entendre vous dire à vous?
Dites-moi, ma petite Micheline, vous en avez mis du temps à venir.
Mais j'espère que ce sera encore... On ne vous dira pas ça avant longtemps.
Ben oui, ben elle a mis 102 ans. Avant de rejoindre le père, nous étions en 94 chez Bernard Pivot, vous l'avez reconnu bien sûr, avec Micheline Prel pour le questionnaire de Proust. Micheline Prel qui a eu le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En 2004, la transition est toute faite pour revenir sur la cérémonie des Césars de vendredi dernier. Qu'en pensait Bernard?
Eh bien écoutez, c'était un cru moyen. Ce qui était satisfaisant, comme à l'accoutumée, c'est la présentation de Valérie Lemercier pour son panache, son humour, toujours sémillant et élégant, le discours tonique et piquant du meilleur espoir masculin, Raphaël Quenard, qui s'exprime d'ailleurs fort bien, contrairement à certains de ses collègues, le trophée d'honneur remis à Christopher Nolan, qui met en évidence les flamboiements de sa trajectoire et de son ambition, le comique en vogue Paul Mirabel, pour son autodérision empreinte d'innocence ou de fausse innocence, de détachement et de désillusion, et la plaisanterie faite à Benoît Magimel avec une enveloppe de l'année dernière. Maintenant, l'hommage rendu aux disparus était beaucoup trop court. On en aurait voulu infiniment plus pour Jane Birkin et Micheline Prel, notamment. L'intervention de Judith Godrèche met mal à l'aise. Est-ce que maintenant, les Césars, ça doit être un exercice d'auto-contrition, d'auto-pénitence? On n'a pas beaucoup parlé de cinéma, d'ailleurs, pendant son discours. L'engagement hémiplégique de beaucoup d'artistes qui parlent de paix à Gaza, mais qui ne disent pas un mot du massacre du 7 octobre, quitte à être engagés, on l'est complètement, on ne l'est pas du tout, à part peut-être le César du meilleur acteur, qui lui a dit d'ailleurs quelques mots en hébreu, Arié Vortalter, à la fin de son intervention. L'acteur Swan Harlow, qui a eu le meilleur second rôle masculin, fait une déclaration politique par l'entremise de quelqu'un d'autre aussi patote que délébile, il n'était pas là. Pio Marmaille a eu bien du mal à cacher sa déception. On l'a vu quelques instants, mais c'était très parlant. On peut se demander pourquoi on ne récompense pas Oppenheimer au profit d'un film quand même fort confidentiel de Monia Chokri. Six trophées enfin pour Anatomie d'une chute. C'est tout de même un peu beaucoup pour un drame psychologique qui se déguise en film policier, qui a certes de belles images enneigées, mais qui restent dans l'air du temps, alors que le règne animal, lui, c'était le souffle de la création. Mais nul n'en fera un fromage, puisque ce n'était pas la cérémonie des Tchédar.
Oui, alors c'est toujours la même chose. Hein. Les nominés sont toujours ceux qui emportent les récompenses. Les nominations maximum, c'était pour Anatomie d'une chute, et remporte 6 Césars. Le règne animal remporte 5 Césars et après bon il y a des broutilles, au fond il y a peu de choses. Moi et alors le discours de Judith Godrèche, comment
ça a toujours ça été a toujours, comme ça
depuis très longtemps, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est sans surprise, on sait que le maximum des nominations va donner le maximum de Césars.
Bon,
et vous qui trouvez ça assez plat, moi j'en ai vu plusieurs et une époque même où j'étais dans la salle. Hein. Et à chaque fois, il y a la même déception. Alors parfois, il y a de plus ou moins mauvais goût. Là, ce qu'on a rediffusé en boucle, c'est bien sûr le discours de Judith Godrèche, qui a tout de même vécu 6 ans avec Benoît Vaco, avant de s'apercevoir qu'il l'avait manipulé.
Oui, mais enfin... Ouais. Mais qu'est-ce que ça vient faire, là ? Vous vouliez parler des Césars ?
Ben, ce que j'ai noté de plus réjouissant, pour ma part, ce sont les révélations. En effet, j'ai été charmée par Raphaël Quenard, qu'on a beaucoup apprécié dans Yannick, on en avait parlé, et vraiment c'était d'une fraîcheur, j'allais dire le mot, je suis tout à fait d'accord, et c'était très charmant la façon dont il a rendu hommage aux agriculteurs à travers en évoquant son grand-père paysan. Je trouve que c'était là pour le coup, ça n'avait rien de déplacé, rien de revendicatif, c'était là parce que ça fait partie de sa vie.
Joyeux.
Et c'était très joli. Et la révélation féminine est allée à Ella Rumpf, quand...
Théorème de Marguerite.
Pour le théorème de Marguerite, que nous avions aussi beaucoup apprécié. Et j'aurais aimé, pour une fois, un ex aequo, parce que il y avait aussi Suzanne Joanet qui avait une nomination, et elle était dans La Voix Royale, qui a un thème voisin sur l'éducation. Et ça aurait été joli de les réunir dans deux films qui sont des hommages à la culture, à l'école, au travail, à l'effort, à l'élévation. Et deux très jolis personnages féminins et deux jeunes comédiennes. Je suis ravie de saluer.
Absolument. Et le théorème de Marguerite était un bon film. On en avait parlé ici.
Une bonne surprise. Dans la tristesse, moi, j'ai découvert que Roger Van Hool était mort. Comédien belge qui jouait dans La Chamade, et je savais pas du tout. J'ai appris la mort de Michel Simon aussi, je ne savais pas.
Et Catherine Lachaine, c'est Laurence Badi et René Château. René
Château, il y a très peu de temps.
En février dernier.
Oui, absolument.
Et Laurence Badi et Catherine Lachaine, c'est actrice de comédie, je ne savais pas qu'elle nous avait quittés.
Alors, dans l'actualité cinématographique, il faut aussi saluer la reparution dans une tout à fait en 4G, c'est ça ? Je sais pas comment ça s'appelle.
4K,
voilà, donc de façon formidable, du film Le nom de la rose, tiré du roman éponyme de Umberto Eco. Vous voulez nous en dire quelques mots, Bernard ?
Très rapidement, c'est un roman qui est paru en Italie en 80, qui est paru en France en 82, et c'est un film enthousiasmant. Je pense que comme...
Sean Connery, Michael Lonsdale...
Science Letter... Oui. Je pense que je l'avais vu comme mes camarades à l'époque, et bon, j'étais adolescent, hein, malheureusement, bon, le temps a passé, mais l'intrigue était captivante, elle l'est toujours. C'est en plus un film avec deux méchants, ce qui est assez rare. Et il y a une typologie, il y a le détective érudit, médiéval, ce qu'on n'avait jamais vu, l'innocent, la jeune fille, symbole de toutes les tentations, le religieux diabolique, Bernardo Gui, le grand inquisiteur, et l'assassin insoupçonnable. Michael Lonsdale m'avait dit qu'ils avaient gelé pendant le tournage en Allemagne, puisque c'était dans un monastère cistercien, le Kloster Eberbach, et les extérieurs sont en Italie. Une anecdote, Robert De Niro, au départ, devait faire le rôle de Bernardo Gui. Seulement, il exigeait un duel à l'épée contre Guillaume de Baskerville.
Ah,
et Jean-Jacques Hano a fini par lui dire « Non, bon, ce sera sans vous ». Ça insiste sur le rire. Sans le rire, on a un handicap, peut-être parce que l'impotent, c'est la rose.
Oui. Non, c'est moi. J'ai revu le film donc hier sur un petit écran, et j'ai vu combien la mise en scène est précise, combien il a travaillé les visages, travaillé les personnages,
et l'éclairage.
Et l'éclairage. Enfin, tout est. Maintenant, il y a des fausses qui ont peut-être un petit peu vieilli dans la mise en scène, bien que ça date. Mais c'est tout de même du très beau travail. C'est tout de même l'un des meilleurs films de Jean-Jacques Hano. Et oui, j'avais noté la présence un petit peu étrange de Lucien Bodard qui joue un tout petit rôle, qui joue le rôle de l'évêque, un journaliste connu, oui, qui a beaucoup travaillé sur l'Indochine, et qui fait une figuration, je sais pas pourquoi il était là, mais enfin, il avait une trogne aussi, comme les autres.
Marie-Noël.
Ah oui, moi je l'ai revu, je ne l'avais pas vu pratiquement depuis sa sortie,
moi non plus.
Et je l'ai revu, ça a pris un relief, je trouve ça formidable, ce film. D'abord parce qu'on est captivé par cette intrigue policière tout à fait étonnante, labyrinthique, et que Jean-Jacques Hano mène extrêmement habilement, parce que elle s'étoffe de digressions, de toutes sortes de... Mais on ne perd jamais de vue, et on attend la suite, et elle est labyrinthique, cette intrigue, et elle se retrouve dans l'architecture et la mise en scène. Ça, c'est formidable,
parce que
l'architecture, il y a des grandes masses de cette abbaye.
Et puis, à côté de ça,
des escaliers, des en recoins secrets, des spirales d'endroits, de recoins.
Il faut appuyer sur l'œil de la sculpture pour que la trappe
de passages secrets, d'escaliers enchevêtrés. C'est formidable. Et puis alors, ce qu'a fait Hano, parce que il a un savoir et une passion encyclopédique, il a fait un travail de reconstitution, de recherche sur les détails de la vie au Moyen-Âge qui sont absolus. Il avait pris Jacques Le Goff comme conseiller historique. Il a eu des équipes entières de recherche extrêmement de grands spécialistes, par exemple de manuscrits et d'enluminures, ou de poterie, ou de la nourriture. Qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs écuelles, ou de quelle façon.
Ah non, c'est formidable. Donc, à revoir le nom.
Il a été César du meilleur film étranger à cause de la production
allemande.
À revoir le nom de la rose. Ah oui, formidable. Merci à tous les trois, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler des films à voir, c'est promis. Mais aujourd'hui, nous devions nous arrêter pour rendre hommage à Micheline Prel. Demain jeudi, avec Jean-François Roth, je recevrai Patrice de la Salle de la Compagnie de Jésus pour son livre « Dieu l'étranger » publié aux éditions Jésuites. Et c'est un grand livre, je vous le promets. D'ici là, je vous embrasse.